c'est aujourd'hui un vendredi, en compagnie de Lynn et d'Alessandra. Merci d'être venus jusqu'ici, vous êtes déplacés.
Merci à toi.
Vous deux avez donc fabriqué, créé les crépidules. Alors on va revenir là-dessus, vous allez vous-même présenter ce que les crépidules. En préambule, on peut dire que c'est sur Internet, c'est un blog sonore, peut-on dire, mais bien sûr que vous allez au moins m'amender. C'est un blog qui concerne, enfin, dont les dessins sont d'être d'expression féministe, pourrait-on dire. Qu'est-ce qui veut commencer à présenter les crépidules? Peut-être Alessandra?
Alors déjà, les crépidules Kesako, des mollusques sous-marins, tu vois, qui s'entassent en forme de piliers et qui, au gré des marées et au gré de leur existence, vont, en l'expression comme ça un peu scientifique, c'est vivre des hermaphrodismes successifs. Donc ils sont tantôt mâles, tantôt femelles, et on recommence. Donc on trouvait ça assez inspirant, comme petit animal totem.
C'est quelque chose que vous avez choisi, que vous avez trouvé ensemble? Est-ce quelqu'un qui tout d'un coup a eu cette idée un petit peu saugrenue, en guillemets?
Non, c'est moi qui ai trouvé ça.
T'avais une carte avec...
Non, alors, je connaissais ça parce que j'ai suivi pendant mon master un cours de biologie que j'ai été voir une fois. Voilà, et le prof parlait de cet animal incroyable.
Dont la singularité est d'être un gastéropode hermaphrodite,
c'est ça.
Donc c'est vraiment ça. L'idée, c'était cet hermaphrodisme-là. Pourquoi?
Sonne bien, quoi.
Alors, ça sonne bien, c'est sûr. Ouais. Mais l'hermaphrodisme fait partie de... quelques notions qui vous habitent expliquer.
Moi, je pense que c'était plutôt... Enfin, c'est clair que ce qui était intéressant avec l'animal crépidule, c'était que, voilà, c'est cette idée que ce qui touche au genre fluctue, en fait. Et voilà, là, il y avait en plus cette idée qu'on peut aussi associer au queer avec, voilà, qu'est-ce qui est fluide, qu'est-ce qui se déplace, se transforme, se retransforme. Donc voilà, il y avait vraiment, je pense que plus que l'hermaphrodisme en soi, c'était
c'est
ça.
C'est le successif.
C'est ça, ouais. C'est fluide. Et après, je voulais aussi dire, là, parce que tu avais dit que c'est un blog, mais moi, je pense que nous, on se définit vraiment comme podcasteuse. Et c'est en fait, Crépidule est un podcast. C'est le podcast qui porte une voix féministe à l'oreille publique.
Voilà, ça c'est ce qu'on retrouve sur le site internet dont vous allez immédiatement donner l'adresse.
Eh bien, crépidule au pluriel, .com.
D'accord. Et alors l'équipe incorporée, ben vous êtes là, c'est vous deux.
Oui, exactement.
À quel moment c'est né Crépidule?
Alors c'est né, on va bientôt fêter notre première année.
Oui.
Bon anniversaire.
Tu nous le rediras.
Ouais.
Et en fait c'est né de notre amitié qui elle-même s'est rencontrée dans le master en études de genre à l'université de Genève. Et assez rapidement on s'est retrouvés à l'époque avec un troisième larron, un homme avec qui on avait envie de faire...
C'était un ami aussi.
Oui. Avec qui on avait... avec qui on avait envie de bouger un peu hors de l'académie. Mm-hmm. Et on était assez percutés par ce qu'on y apprenait, ce qu'on y découvrait, et on avait envie de sortir ça de ces sphères assez parfois renfermées. Donc à l'époque, on faisait des fanzines sur ces questions-là. Et puis ce projet-là s'est essoufflé. Et nous deux, on a eu envie de changer de média et de se retrouver les deux à prendre le micro.
Très bien. Alors justement, j'allais vous interroger sur les dessins et la posture, le format de Crépidule. Vous l'avez précisé, Lynn, tu l'as dit tout à l'heure, vous vous définissez plus comme podcasteuse, même s'il y a quand même des articles sur le site, puisqu'il y a des choses qui sont rédigées, mais c'est vrai que le format est avant tout un format sonore. Pourquoi ce parti pris-là?
Alors moi, en fait, j'écoute... Donc moi, je suis suédoise d'origine, je suis aussi suisse maintenant, mais je suis née en Suède et je suis arrivée à Genève quand j'avais autour de 11 ans, donc je parle couramment le suédois. Et j'écoute beaucoup d'émissions en fait en Suède, c'est très in depuis quelques années les podcasts. Et il y a des choses vraiment de qualité, et notamment des podcasts féministes que je pense n'ont pas vraiment le même format que le nôtre, mais moi je me suis beaucoup inspirée en tout cas d'elles, dont justement une, c'est ma grande star Liv Strömquist, qui est une illustratrice, elle fait de la BD, qui a aussi été traduite en français. Mais je me perds. Mais ouais, je pense que c'est vraiment... Moi, j'écoutais beaucoup les podcasts. Je savais, je m'étais renseignée un peu de comment faire un podcast. Et c'est hyper facile. Il faut juste un micro, en fait. Et puis un peu de volonté.
D'accord. Donc, un des arguments, c'est effectivement déjà par affinité, et puis que c'est relativement facile de le faire, c'est ça.
Et puis il y a toute la dimension justement autoproduite que, dans laquelle on s'était formé par rapport aux fanzines. Mm-hmm. Et puis là justement tu dépends de personne, tu peux avoir la liberté de parole, enfin, c'est tout ce côté aussi do it yourself qui nous plaît infiniment.
Puisque moi j'aime bien avec les podcasts, qui étaient plus difficiles avec les fanzines, c'est aussi comment tu touches les gens. Parce que là, c'est vraiment les fanzines, alors il faut y aller vraiment matériellement vers les gens, alors que là, c'est, voilà, c'est sur Internet. Et en plus, les gens, ils écoutent dans le train, en allant au travail, enfin bref, dans des moments comme ça. Puisque j'aime bien aussi des retours que j'ai par rapport au podcast, c'est que les gens nous disent « Ah, mais j'adore écouter vos podcasts parce que j'ai l'impression que j'ai juste deux amis qui sont posés avec moi dans le canapé à côté et puis je fais la vaisselle ou Dieu sait quoi. »
Tout à fait. Alors, comment ça se passe? Techniquement, vous choisissez un sujet, un thème, et puis ensuite, vous faites des recherches, vous invitez des personnes à intervenir. Comment est-ce que vous créez ces podcasts?
Bah, alors,
c'est Lynn qui répond.
Soit, ça peut être, on est tombé sur quelque chose, genre Alessandra, elle a lu tel article, que ce soit dans sa thèse ou ailleurs, ou moi aussi, je suis tombée sur quelque chose, et puis j'ai envie de discuter ça. Je pense qu'on est vraiment très curieuse de nature comme ça et on est tout le temps en train d'apprendre plus. Du coup, tout d'un coup, on fait un peu « Ah, mais moi, j'ai une expérience par rapport à la bouffe, j'ai envie de parler bouffe et féminisme, tu vois, ou des choses comme ça. » Sinon, ça peut être aussi dans nos réseaux d'amis ou de connaissances où tout d'un coup, quelqu'un aborde un sujet, soit parce qu'elle ou il a écouté le podcast, soit juste comme ça. Et puis tout d'un coup, tu dis « Ah, mais ça pourrait faire un super podcast. Bon, » on a une amie, justement, qui était venue parler de contraception alternative. Puis voilà, c'était parce qu'on en avait parlé à une soirée. Et puis tout d'un coup, il y avait encore une troisième personne qui a dit « Ah, mais il faut faire un podcast et tout. » Donc, c'est un peu, je dirais, un peu fluide aussi.
Ouais. Alessandra, est-ce que vous avez particulièrement des invités que vous, de référence? Typiquement, comme vous disiez que vous êtes issue de l'Institut d'études genre, j'imagine qu'autour de vous, il y a quand même un certain nombre de personnes. Nous avons pu interviewer à Libre Radio Brigitte Montilleri, par exemple. Faites-vous intervenir de temps en temps des personnes extérieures ou les podcasts, c'est vraiment plus des rubriques, je veux dire, des choses que vous avez créées vous-même?
Alors, dans le réseau genre, pardon, maintenant je réponds.
Mais
alors
oui.
On a interviewé Caroline Dyer,
qui est une experte sur ces questions.
Qui vient récemment de publier.
Et un deuxième ouvrage sur la violence, la violence des insultes.
Exactement. Ouais.
Mais après, ce qui est intéressant, c'est que le genre, c'est quand même, les enjeux du genre sont transversaux. Donc c'est très intéressant aussi de parler avec des gens qui ne sont pas forcément dans des réseaux féministes ou de genre, pour voir comment ces questions-là peuvent s'imbriquer et se filer dans d'autres domaines.
Parce que ça, c'est quelque chose de très important pour nous. C'était parce que c'était une prise de conscience personnelle du fait que avoir une posture, une éthique féministe, ça peut paraître comme une focale qui se refermerait sur un faisceau assez étroit de questions, et pas du tout en fait. Il y a toute une pensée, il y a tous des outils de réflexion que tu peux développer dans n'importe quel domaine. Donc c'était aussi une volonté de montrer à quel point, pour reprendre le terme de Lynn, cette transversalité était féconde et enrichissante. Et c'est peut-être aussi pour désinguer un peu un stéréotype de cette posture féministe.
Qui effectivement, l'idée là, c'est d'être le plus inclusif possible et de libérer une parole finalement.
Oui, puis avec des questions de la diversité, de liberté d'expression, d'être, des choses dans lesquelles on peut un peu toutes et tous se retrouver assez facilement, tu vois. Et puis les utopies féministes, je pense qu'elles seraient vraiment bienfaisantes pour l'ensemble de la société. C'est pas...
C'est des podcasts qui sont relativement longs en temps radio. Ça, c'est un choix aussi que vous faites de prendre le temps, de laisser le temps au temps. Les auditrices et les auditeurs peuvent effectivement se glisser à l'intérieur de ces récits. C'est quelque chose vraiment qui est important pour vous?
On n'en a pas vraiment parlé, mais pour moi, oui, c'est très important. Et je pense que dès le début, c'était un format comme ça, entre 45 minutes et une heure, qui s'est imposé. Parce que ça permet aussi de traiter plusieurs sujets. Donc souvent, c'est ce qu'on fait. On parle de deux choses. On file un peu deux thématiques dans un podcast. Puis aussi pour les interviews, moi je trouve que c'est génial parce que tu as le temps de vraiment venir chercher la personne, quoi. Ouais, tu peux, ça te laisse le temps de divaguer aussi un peu et d'aller chercher là où ça peut. Tu avais peut-être pas pensé au début, mais tout d'un coup.
Tout à fait, on se laisse un peu mener par une discussion, un petit peu quelque part informelle, et ça permet de toucher peut-être à des sujets qui ne seraient pas venus. Et même dans un format réduit.
Et à l'inverse, je pense qu'on pourrait faire plus long, mais c'est aussi une volonté de ne pas du coup trop diluer ça, d'avoir une...
Ça veut dire que là, vous avez une fréquence quinzomadaire sur laquelle vous allez peut-être revenir. Mm-hmm. Ça, c'est un équilibre que vous avez trouvé de manière assez naturelle. Tous les 15 jours, c'est bien, ça vous permet de bien travailler le sujet. Et la question qui viendra après, ce sera concernant le montage. Est-ce qu'il y a un gros travail de montage, ou est-ce que, en fait, ce qui est enregistré est quasiment prêt à être diffusé? Ouais. D'abord sur la fréquence quinzomadaire, Lynn.
Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est aussi, je me suis calée sur des podcasts que j'écoute moi, et qui sortent soit toutes les semaines, soit toutes les deux semaines, et je trouvais que c'était pas mal en fait aussi pour garder l'auditeur nourri. Ouais.
Mais c'est vrai que là, on va passer à 3 semaines.
Ouais, parce qu'on a des travails assez prenants à côté. Et on commence à avoir de la peine à suivre, dans le sens, je pense que la qualité n'a pas diminué, mais le plaisir que nous prenons à faire les podcasts, on sent maintenant qu'on a besoin d'un peu plus de temps, un peu plus de temps de préparation.
Bah, c'est une grande pression, quelque part, comme on prépare quand même pas mal en amont, t'es un peu tout le temps sur le grill. Donc voilà, c'est aussi chouette d'avoir des activités où tu peux laisser un peu décanter les choses un tant soit peu.
Ouais, de ventiler un peu.
Ouais.
Non, puis fournir des contenus, c'est ça. C'est une belle responsabilité également.
C'est ça.
Mais c'était quoi la deuxième question?
Parce que les montages.
C'est une question,
voilà,
c'était.
Ah oui, ouais.
Est-ce qu'il y a un gros travail de montage?
Ah ouais, je dirais qu'on s'est vraiment amélioré. Alors le premier, il y avait clairement un méga travail de montage et aussi le son. Bref, on a appris tellement de choses. En faisant ces 20 épisodes, et moi je dirais que maintenant, non mais le montage là, on est bon, quoi. Ouais, c'est easy.
Vous avez imaginé vous entourer par des personnes soit extrêmement compétentes techniquement, soit des personnes ressources, des personnes qui feraient le même travail que vous, où le tandem fonctionne à merveille, et le fait qu'il y ait cette connivence et ces affinités font que vous allez rester en tandem?
Bon, moi, si je peux avoir un monteur ou une monteuse, je dis pas non.
On réfléchit à quelqu'un qui pourrait nous tenir le micro quand on fait des interviews, tu vois.
Ouais.
Mais on ne voit pas encore.
Comment on dit, un perche-man.
Un perche-man, ouais.
Ou une perche-woman.
Ouais, une perche-woman.
Mais je crois que là, il y a un confort et une stimulation créatrice entre nous deux. Qui nous tient à cœur. Et puis après, l'idée, c'est justement peut-être la saison qui vient, d'avoir un peu plus d'invités. Et dans ce cas-là, voilà, tu t'ouvres comme ça avec quelque chose, tu vois, un socle sur lequel construire une discussion plus ouverte. Voilà, je crois que c'est... Je te dis, il y a des choses techniques. C'est clair que si on pouvait faire ci et ça...
Après, j'avoue aussi que vu qu'on a fait maintenant toutes les 2 semaines depuis septembre, en fait, ça prend beaucoup de temps de se renseigner sur les sujets, faire les recherches. Et tout d'un coup, c'est le jour où on enregistre et puis il faut que ça sorte le mardi. Et du coup, je dois dire aussi qu'on n'a pas eu le temps forcément de se poser et de faire les recherches et de faire l'apprentissage technologique peut-être pour avoir un truc encore plus performant. Mais je trouve que franchement, on s'en sort pas mal, quoi.
Les modalités, c'est quoi? Si vous interviewez quelqu'un, vous le faites dans la rue, vous avez un petit local où vous pratiquez toutes ces choses-là, ou c'est très informel comme ça?
Les deux.
On a eu un peu de tout. Pas, en tout cas, pas la rue, parce que là, on n'a pas les moyens pour produire un son.
Ouais, mais on était quand même au centre de la photo, on a interviewé l'artiste Angela Marzullo.
Mais dans un bureau, comme ça, où il n'y avait personne. Voilà.
D'accord.
Oui, il y avait beaucoup
de monde. Oui, il y avait ça aussi, on a oublié de dire, comme intervention extérieure. Ouais.
Angela Marzullo, oui. Mm-hmm. On va rappeler le site internet parce qu'il y a également une newsletter à laquelle les personnes peuvent s'abonner.
Oui,
alors tout à fait. C'est donc un site sur lequel on peut s'abonner, donc crépidule@pluriel.com. Et c'est vrai qu'on a un deuxième temps de partage qui s'appelle nos post-pods.
C'était la question qui venait.
Ah, tu veux la poser?
Alors, je veux bien. Non, mais je préfère que si je ne dois pas poser la question, c'est que c'est bien. Elle était dans l'air du temps. Uh-huh. C'est très bien. Alors, effectivement, la partie podcast. et puis c'est celle qu'on écoute, et puis la partie post-podcast, c'est celle qu'on lit.
Oui, parce que comme on fait toutes ces recherches, on partage aussi ça, donc on met en lien des vidéos, des articles, parfois il y a une réflexion qui a continué entre nous ou pour l'une ou l'autre, donc il y a aussi une petite partie éditoriale dans ces post-pods. Et puis c'est une manière d'inviter, dire voilà, ce sujet, cette thématique vous a intéressé, vous pouvez aller plus loin. Et ça, à voir notre site, c'est particulièrement regardé.
Ouais. Ouais. Effectivement, c'est très intéressant et ça permet également, j'imagine, de sourcer les éléments que vous, les réflexions que vous produisez. Et dans l'époque un petit peu délicate que l'on traverse, c'est plutôt pas mal d'avoir des informations qui peuvent être sourcées et que les gens peuvent vérifier.
Alors on le fait à l'oral, en général, on essaie toujours d'être très clair sur ce qui vient de notre réflexion et ce qu'on a lu. Mais tu as raison de soulever ça, puis avec en plus la possibilité de dire bah voilà, tranquillement, reprenez cet article, allez plus loin, parce que ça reste 40 minutes.
Ouais. C'est comme une invitation également à poursuivre cette réflexion. Tout à fait. Une voix féministe, ça veut dire que pour vous, voilà, le cœur du projet, il est dans l'idée d'un féminisme qui est encore, selon vous, j'imagine, déficitaire sur plein d'aspects, en tout cas en termes d'expression.
Oui, assurément.
Alors, la situation...
J'ai mal compris la question, pardon, elle était tellement longue.
Pardon, j'essaie de faire plus court. La situation, selon vous, la situation des femmes, la situation du féminisme, comment est-ce que vous l'observez de votre point de vue, c'est-à-dire du point de vue de deux podcasteuses?
Bon, alors pour moi, par exemple, genre, bon, il y a ce truc avec le féminisme ou les féminismes, c'est qu'une fois que tu prends la pilule bleue ou rouge, je ne sais plus laquelle c'est qui prend, mais c'est fini, il n'y a pas
de retour en arrière.
Donc une fois que tu es féministe, tu es féministe. Mm-hmm. Et après, moi, il y a vraiment un truc genre, moi, sur le féminisme, je ne me marre pas, quoi, c'est pas marrant. J'ai besoin de ça pour vivre, en fait. Mm-hmm. C'est vital pour moi. Et c'est clair qu'il y a tellement de travail encore à faire, mais je le fais avec joie.
Ouais. Alessandra
Oui, parce que pour rebondir sur ta question, c'est une double sensation. C'est qu'à la fois, ces questions-là ou ces voix-là sont encore très invisibilisées. Et à la fois, à peine, c'est comme le terme de genre, à peine on l'entend hors des sphères, par exemple, académiques ou militantes, tout de suite, il est un peu récupéré, tu vois, à mon sens, parfois travesti, ou c'est une volonté un petit peu de dire, bah, dans cette pléthore de choses qu'on raconte en ce moment dans les médias généralistes sur ces questions-là, bah, tout d'un coup, envie de dire non, mais moi, je me sens quand même de devoir participer à ce débat pour amener aussi mon point de vue, qui est peut-être pas toujours très diffusé.
Est-ce que... Pardon.
Non, mais je veux juste dire qu'il y a... comment tu dis le spine, tu vois,
ce qui tient en place l'articulation, le squelette, mais le l'épine dorsale,
l'épine, selon moi, l'épine dorsale de mon féminisme, c'est justement la remise en question constante, et on fait beaucoup ça avec Alessandra, que ce soit dans les podcasts ou juste entre nous, mais c'est de discuter des féminismes, en fait, et des enjeux qu'il y a à l'intérieur, des choses qui se développent, et de toujours aussi remettre en question les discours qu'on tient.
Alors, justement, alors selon vous, où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là? Est-ce que ce sont des situations qui, autour de nous, évoluent pour le mieux, qui sont plus ou moins stables, ou qui régressent?
Je pense qu'il y a un maelstrom où il y a de tout. Il y a une force... si on peut rester dans les références, Matrix ou autre, il y a les forces obscures et claires. Enfin, tu vois, je pense que ça va très vite. C'est très viral. Il y a les choses qui prennent tout de suite une ampleur, qui peuvent retomber aussi rapidement, d'attaques, de régression, de mise en danger de ce qui a pu être des acquis, des choses qui n'avancent pas, et de plus en plus aussi, d'autres côtés, des prises de conscience, des mobilisations. Je trouve qu'on ne peut pas avoir un avis tranché sur cette question.
Mmh. Mais vous, de votre point de vue, de nouveau, est-ce que vous situez plus en des termes de lanceur d'alerte, de relais d'information, de contre-information, ou alors peut-être quand je dis contre-information, c'est par rapport à des médias de masse qui, peut-être, dans lesquels peut-être justement les voix féminines et féministes sont sous-représentées, et bien là, il est question de remettre à plat certaines choses. Est-ce que vous sentez que vous avez un rôle, et lequel serait-il ?
Bah, quand on s'est décidé à faire le podcast, on a vraiment fait le choix de ne pas se mettre dans une posture de dénonciation. On voulait apporter quelque chose de positif, voilà, aider à construire et ne pas être dans ce truc de dénoncer.
Qui est nécessaire aussi, mais...
Et qui est vraiment aussi une posture qui use de ton énergie, de toujours être dans le négatif, de toujours dire ça c'est pas ok, ça c'est pas ok, ça c'est pas ok. Voilà, voilà, maintenant de proposer en fait quelque chose. Ouais. Parce que qu'est-ce que tu fais une fois que tu as dénoncé ? Tu dois bien... amener quelque chose d'autre. Donc je pense que c'est ça qu'on essaye de faire avec nos podcasts. Même si parfois, évidemment, on discute aussi. Mais pas en termes de lanceur, lanceuse d'alerte ou de... Enfin, ouais.
D'accord. Et est-ce que vous avez recensé des projets similaires aux vôtres ailleurs, en Suisse ou en France ou ailleurs dans le monde ? Et le deuxième volet de la question, c'est est-ce que vous travaillez un petit peu quand même en réseau avec justement des partenaires privilégiés ?
Bah, y en a, ça c'est sûr. Il y a ici à Genève, il y a cette constellation de radio rageuses.
Ouais, ça c'est Canada.
Non, elles sont à...
À Genève également, oui.
Voilà,
ah ouais, y a une... excuse-moi.
Mais par exemple, tu vois là...
Tapage exquis, si jamais.
Voilà, tout à fait. On les a contactés, tout ça, elles étaient hyper intéressées. Après, ça demande un investissement réel, quoi. Tu vois, là, il y avait une réunion cet été avec toutes les productions qu'elles relaient.
Ouais, puis c'était quelque part en France.
Oui, et puis c'est un peu difficile d'y aller sans y être, enfin, tu vois. Et puis là, alors clairement, c'est pas du tout par manque d'envie ou par snobisme ou je ne sais quoi ou et tout, mais là, c'était vraiment des limites matérielles, quoi, de disponibilité. Mais on essaye un peu de d'être en contact quand même avec ce qui se fait de part et d'autre.
Ouais. Et après, c'est sûr que voilà, c'est aussi quand on rencontre des initiatives féministes qui nous intéressent, voilà, on se met tout de suite en contact. Donc ça.
Voilà. Est-ce que par exemple, il vous est arrivé déjà de relayer un événement qui serait un événement féministe, hein, un festival, un événement culturel, une manif même, pourquoi pas ?
Ouais, bah, les Indociles par exemple, qui avaient fait un spectacle.
Oui, il y a les Indociles, il y avait tout ce arrêt féminisme qui était cet éditaton. Qui a eu lieu cette année pour visibiliser plus les productions artistiques faites par des femmes, avec l'exposition justement d'Angela Marzullo, Feminisme Crisis. Là, il y avait aussi une exposition sur l'allaitement qu'on avait relayée. C'est vrai qu'on essaye aussi de développer quelque chose depuis là où on se trouve et là où on vit. Donc, d'être attentive justement aux pulsations de la cité et puis de voir comment on peut y répondre.
D'accord. Alors justement, j'ai bien compris cette idée également d'enracinement local finalement, parce que c'est là où vous habitez et c'est là où vous exercez votre passion. Alors quels sont les retours que vous avez pu avoir justement du public qui vous écoute et des gens que vous rencontrez ?
Bah, alors les gens, on n'a pas eu de retour négatif, le négatif se tait ou ne vient pas, ou, enfin, tu vois, on n'a pas eu de choses à gérer comme ça. Et ben, par rapport à cette exposition sur l'allaitement, il y a des gens qui nous... J'ai deux exemples de personnes qui m'ont dit « Ah, mais je suis sortie, je suis allée voir cette expo, c'était trop bien. » Une autre qui venait d'avoir un petit bébé qui a dit « Ah, ben, c'est la première fois que je sortais avec mon pitchoun dans ce contexte. » Donc ça a vraiment fait relais.
Ouais, puis même là, en fait, pour l'épisode sur l'allaitement, bah, y a même des personnes qui ont participé à faire l'exposition qui nous ont fait des retours positifs.
Voilà.
Donc ça, c'est aussi intéressant.
Il y a des gens qui nous disent que ça fait leur nourriture réflexive. C'est pour ça, on ne peut pas être objectif parce que le négatif ne nous revient pas. Mais ce qui revient est très encourageant. Ouais.
Bon, moi, j'ai quand même eu du négatif. Je crois que de la part d'hommes, mais qui peut-être trouvent qu'on parle un peu trop de trucs de meufs.
Ah oui, quand
même. Tu vois, que ça les... Ou qui ne comprennent pas pourquoi on a autant envie de parler du féminisme, enfin, de féminisme tout le temps. Et en fait, moi, ça ne me touche pas tellement, mais... Enfin, je peux aussi comprendre, en fait, qu'en tant que mec blanc, middle class, ce n'est pas des questions qui te touchent, quoi. Enfin, dans le sens, oui, ça te touche, mais ce n'est peut-être pas quelque chose qui va te préoccuper.
Alors, en termes de préoccupation, est-ce que vous est passé par la tête de dire on va interviewer quand même pendant quelques garçons, ou bien c'est même pas une question qui a surgi parce que vous faites comme vous l'entendez et puis les sujets étant ceux-là, et eh bien ils vont naturellement plus.
Ouais, je crois vraiment. Il n'y a pas de ligne, quoi. Il y a pas. On a dans les perspectives un ami qui est historien, qui a travaillé sur une question des femmes dans la religion ici dans la région française qu'on aimerait bien et beaucoup entendre. Après, je pense que la chose qui me préoccupe, c'est la dimension si blanche de notre podcast. Ça, c'est une question qui pour moi est vive, de comment être des alliés de ces questions de discrimination, de racisation. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose. C'est c'est une conscience qu'on a de parler de la situation sociale dans laquelle on est.
Avoir la parole des personnes concernées.
Ouais. Mm-hmm. Et puis c'est pas facile. Enfin, voilà, là il y a des délicatesses à avoir, à prendre. C'est pas ça. Ça pour moi en termes de qui prend la parole et tout ça. Moi ma question elle est là. Elle est pas en termes d'homme-femme. C'est pas.
Cela dit, récemment on a eu quelques petites polémiques comme ça qui ont apparu concernant la non-mixité, notamment avec un festival en France afro-féministe. Mm-hmm. Et puis également, il me semble, alors du coup je crois que c'est en Suède avec un festival de musique qui a renoncé. Le Bravala, je crois que ça s'appelle, ce festival, et qui a renoncé après des agressions sexuelles et qui a, pourquoi pas, enfin, dont certaines représentantes voulaient proposer un festival non-mixte l'année d'après. Comment vous observez ça, de votre point de vue, la non-mixité ? Pour vous, c'est quelque chose qui va de soi, qui est nécessaire ? C'est un mal nécessaire ?
Alors, je ne pense pas que c'est un mal nécessaire. Je pense que c'est clairement un outil militant, en fait. C'est hyper bien, je pense, que certains groupes discriminés puissent disposer de lieux et de temps où il n'y a pas les personnes susceptibles de les discriminer ou qui sont dans une posture dominante, qui sont là pour infecter le débat. Et c'est clairement, enfin, des lieux de non-mixité, c'est aussi des lieux peut-être de safe space, où on est plus sécure, où on peut avancer sur les questions qui comptent, quoi.
Pour moi, ça, c'est très important, avancer, parce qu'il y a toute cette idée de passer son temps à expliquer aux gens ce qu'on peut vivre et qu'ils ou elles ne connaissent pas. Enfin, c'est une énergie, de nouveau, parce que y a vraiment une dimension, je pense que tu vois bien de quoi je parle, mais de l'épuisement par rapport à l'engagement. Voilà, c'est des équilibres tout le temps à reconsidérer et des endroits où tu peux directement rentrer dans le sujet sans avoir à retirer le fil, argumenter, voir dans l'œil de l'autre qu'il ne te croit pas vraiment, que ça ne doit pas être si grave que ça et tout. Et puis aussi, je suis assez sidérée de voir les réactions, mais vraiment, hein, c'est violent comme ça réagit en face. Puis t'es là, mais au juste, tel lieu, il est vraiment mixte, ou bien telle sphère sociale, elles sont vraiment mixtes. Donc voilà, quand c'est institué socialement, comme ça, là c'est ok, mais quand tout d'un coup ça vient d'une volonté politique, ça c'est inconcevable. Et puis qui c'est qui se plaint le plus ? C'est les personnes qui justement passent leur vie dans des sphères assez peu diverses. Ouais.
Donc c'est-à-dire que là, il y a vraiment un travail énorme encore à faire, hein. En tout cas, je veux dire, de décoder ces attitudes-là et d'arriver à avancer, à faire avancer le sens.
Non, mais surtout, moi, je ne comprends pas, parce que tu vois, s'il y a des gens s'il y a des gens qui sont discriminés, qui revendiquent un endroit où, s'il vous plaît, juste est-ce qu'on peut avoir un moment tranquille pour nous, tu vas pas venir faire chier, tu vois. Enfin, genre, les gens ont leurs raisons. T'as pas besoin de tout savoir et tu vas pas aller demander pourquoi moi je peux pas venir. Ben non, je peux pas venir là, tu vois. Ça me sidère, mais c'est.
Et
après, il faut expliquer, tu vois. Mais moi, c'est aussi des choses qui m'avaient tellement énervée à l'université où t'as des cours. On étudie genre vraiment des cours féministes, tu vois, on essaye d'avancer sur des questions théoriques, c'est des séminaires et tout, et t'as trois gulus qui viennent et qui, parce que c'est cool, tu vois, faire un peu étude genre, ça commence à monter et tout. Par contre, on passe le séminaire à expliquer à ces gars qu'on s'en fout, en fait. Enfin, tu vois, il y a des gars qui viennent et disent « Oui, mais moi, c'est pas parce que j'aide ma copine à ouvrir le pot de confiture » que je suis pas, enfin que je suis sexiste, puis t'es là, je m'en fous, tu vois. Enfin genre parce que j'essaye d'avancer vraiment sur des questions, tu vois. Alors est-ce que, et non, bah, ce qui va arriver, c'est qu'on va prendre vachement de temps à genre tout réexpliquer, mm-hmm. et les gens qui ont déjà avancé ou qui sont là vraiment pour avancer, arrivent pas quoi. Ouais, pardon, moi je me suis emballée, mais ça me sidère quoi. C'est tellement genre.
Le choix, il est difficile parce qu'effectivement, faut-il continuer d'expliquer, de réexpliquer, mm-hmm. de s'épuiser au bout du compte, au risque de cesser toute activité, parce qu'il y a des moments où j'imagine qu'on a envie de tout lâcher, ou alors est-ce qu'il faut à un moment donné dire bon, ok, on met ça de côté puis on avance, parce qu'il y a quand même des choses importantes hein. Parce que vous parliez tout à l'heure de art et féminisme, on a également relayé ici une partie de cet événement là et on a fait un atelier Wikipédia où la grosse question, c'est au moment où on proposait un langage épicène, eh bien il y a eu un retour de manivelle incroyable de gens qui, de contributrices et contributeurs Wikipédia qui eux-mêmes étaient extrêmement réticents à ça. Alors qu'on sait que dans Wikipédia, il y a également une disparité incroyable entre les contributrices et les contributeurs et également les sujets. Voilà. Donc il y a un déséquilibre incroyable. Donc dès lors que tu essaies de remettre un petit peu à plat ces choses-là, eh ben, il y a des résistances que l'on ne soupçonnait pas. On pensait effectivement que la communauté Wikipédia, elle était quand même un petit peu plus alerte par rapport à ça. Et on s'est aperçu qu'en fait, pas tant que ça. En tout cas, on s'est aperçu qu'il y avait des grosses résistances. Mm-hmm. Alors j'ai l'impression qu'effectivement, il reste là énormément de choses à faire, quoi, de travail à faire. Est-ce qu'il faut déconstruire les choses, réexpliquer? Alors vous, votre posture, c'est quoi? C'est de dire, d'une certaine partie, d'une certaine mesure, on essaie toujours d'expliquer, de faire de la pédagogie, ou à un moment donné, on passe la pédagogie, les gens ils la font pour eux-mêmes, et puis vous abordez des sujets, vous allez de l'avant.
Bon, dans les podcasts, je pense qu'on ne fait pas tellement de pédagogie. C'est dans le sens où parfois, on parle de choses très complexes, donc on va de toute façon expliquer. Mmh. Et c'est aussi important, on revient souvent sur qu'est-ce que le genre, qu'est-ce que queer, revenir sur ces questions et puis repréciser comment aussi nous, on aborde ces concepts-là. Ouais. Mais après, sur un plan individuel, je sais pas, franchement, c'est selon le jour. Parfois, tu as l'énergie, parfois, tu n'as pas.
Puis... Mais tu vois, par exemple, moi, il y a un outil qui vraiment a été bouleversant pour moi. C'était de... donc, c'est ce terme qui dit dénaturaliser les choses. Mais c'est-à-dire ne cesser de considérer comme une évidence des fonctionnements, des attitudes, des rôles, d'accord ? Et donc ça, c'est vraiment le outil de ces pensées-là, c'est de regarder dans l'histoire comment tel thème, tel sujet s'est construit. Mm-hmm. Tu vois, des choses flûtes, là, je n'ai pas d'exemple qui me vient, mais dire par exemple... Attends.
Comment le terme d'homosexualité, tu vois, a été construit, ou des choses comme ça.
Oui, ça peut être dans les représentations, ouais. Dans l'histoire,
nous, on aime beaucoup l'histoire médicale, donc aussi voir... Enfin, l'histoire médicale, ça parle aussi beaucoup de notre société contemporaine.
Alors, je peux vous dire, du coup, moi j'ai une question pour vous, un des mots qui me choque particulièrement, c'est hystérectomie. Parce qu'il y a une notion d'hystérie et de soin de l'hystérie par un acte médical, de médicaliser, de psychiatriser des attitudes et d'assigner des traitements qui seraient médicaux, du coup, incontestables. Qui est celui de l'hystérectomie. Comment ce mot-là peut encore continuer à être utilisé? Vous ne trouvez pas... Enfin, je ne sais pas, je vous livre ça un peu comme ça, mais... Enfin, moi, c'est un mot qui me choque.
Mm-hmm. Bon, alors, de nouveau, là, il faudrait... perso, je ne suis pas spécialiste de l'histoire de ce terme-là, mais c'est clair qu'il a justement tout un contexte historique, culturel et social... qui a fait qu'on cherchait à un moment donné à inscrire justement des différences, pas des différences, on voulait que le principe de différenciation des hommes et des femmes ait une légitimité corporelle, d'accord ? Donc on est allé fabriquer, on a eu un regard qui a fabriqué des différences à ce niveau-là qu'on pensait être irréfutables, tu vois ? Et cette notion, cette association de l'hystérie avec la dimension reproductive et sexuelle des femmes, ça c'est tout un lien qui a été évidemment construit, quoi.
Absolument, ouais, tout à fait. Y a-t-il des sujets que vous...
Attends, je finis juste un truc. Oui. Tu sais, par rapport au fait de mettre les choses en contexte, oui. Donc, on appelle ça l'historicisation. Mm-hmm. C'est que tu vas donc regarder justement quand ça s'est passé, de quelle manière, etc. Et ça, par exemple, je trouve que c'est un outil qui est hyper subversif. Parce que tu peux prendre à peu près tout ce qui se passe autour de toi, puis dire, ben voilà, ah ben ce mot, en fait, hystérie, comment ça s'est mis en place, tu peux aller tout chercher comme ça, et commencer à voir que c'est pas, il n'y a rien qui est inscrit dans les reins, ou dans le marbre, ou ailleurs, ou dans les veines, tu vois. Et donc, c'est très libératoire aussi de dire, ben, ok, si ça a eu lieu dans ce sens-là, je peux aussi influer pour que ça se déroule dans un autre sens.
Tout à fait.
Voilà.
Absolument. L'espoir est permis, bien entendu, et le triomphe de la rationalité. Tout ça. Y a-t-il des sujets que vous vous interdisez, et si oui, pour quelles raisons? Des sujets qui seraient trop complexes, ou comme on l'a dit tout à l'heure, des sujets qui prêteraient tellement le flanc, alors que le ratio entre ce qui prête le flanc et l'énergie qu'ils consommeraient par rapport à concrètement la réflexion et le sens qu'ils amèneraient, ne vaut pas la peine qu'on les investisse.
Je pense qu'on n'a jamais pensé à ça vraiment. Et je crois pas que...
Il n'y a pas de stratégie de ce point de vue-là. Mmh. Ouais. Vous faites ce que vous faites, point.
Ouais, c'est ça. Bah, on prend des sujets qui nous, souvent qui nous intéressent ou qui nous touchent. Quoi. Enfin,
ouais, bah, alors par contre, je pense peut-être qu'un interdit qu'on a, même, c'est d'essayer le moins possible de parler à la place des autres.
Ouais, ça oui.
Donc tu vois,
ça, c'est plus une stratégie, c'est pas un sujet en soi, mais
non, mais c'est une éthique fait que tu vas aborder les choses ou pas ou différemment.
Ouais.
Par exemple, pour en revenir à cette question de la diversité en termes de couleur de peau et de culture et tout ça, on avait mobilisé une web série sud-africaine qui elle-même mettait en scène ces questions-là, tu vois, pour en parler et puis pas prétendre que nous on puisse ouais, c'est ça. Moi, je trouve que pas parler à la place des autres, c'est quand même quelque chose qu'on s'interdit naturellement. Bon. Mais...
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est dans le sens où ça fait partie de notre posture féministe en soi. Mais après, c'est sûr que, étant donné que c'est nous qui faisons le podcast, ça se répercute dans le podcast. Quoi.
Alors, justement, y a-t-il un podcast particulièrement que vous auriez envie de recommander pour justement commencer à entrer pour quelqu'un de totalement profane et qui aurait envie justement de se désintoxiquer ou de déconstruire ou de décoder certaines choses comme ça, usuelles.
Par lequel commencer?
Par lequel, tu dis? Mais ouais, un de nos épisodes.
Ouais.
Bon, moi, j'aime beaucoup... comment elle s'appelle? Celle sur l'allaitement vertigineuse.
Oui.
Celui-là, je trouve qu'il est pas mal pour... Quand on parle d'histoire de la médecine, je trouve qu'il est assez bien. Non, mais il faut tous les écouter, de toute façon. Mais est-ce que peut-être un conseil à donner, c'est peut-être ne pas commencer par le premier... Parce que le son peut être un peu effrayant. Le premier est en fait enregistré dans une cuisine. Voilà, ça fait un peu boîte de conserve.
Non, okay. Puis c'est vrai que moi, j'ai toujours un peu... Enfin, je pense que les 2, 3, 4, voilà, on a mis quand même un petit moment à se poser, à se trouver. Enfin, voilà, on a vite avancé, je trouve. Mais à part ça, le premier, il est aussi rigolo quand tu nous connais plus, de retourner... Parce qu'on l'avait appelé Naissance Féministe et justement, on se positionne... sur les motivations à faire ce podcast.
Ah, d'accord.
Mais le dernier, il est bien aussi.
On va arriver doucement au terme de l'entretien. J'ai encore une ou deux questions. Mais y aura-t-il des figures tutélaires comme ça, des figures tutélaires qui vous habitent tout au long de votre travail, qui vous accompagnent tout au long de vos réflexions? Je pense, je ne sais pas, Angela Davis, à des personnages qui marquent votre conscience et qui, quoi qu'il en soit, quand même, influent, et c'est très bien comme ça, vos cheminements.
Ouf, c'est dur.
Je pense que c'est
moi, il y a par exemple, donc il y a cette illustratrice féministe, Liv Strömquist, qui pour moi est un peu ma star. Et après, il y a ces derniers temps, j'ai pas mal parlé de Roxane Gay, qui est donc cette professeuse américaine féministe et queer, qui a notamment écrit le livre Bad Feminist, dont on a discuté. Mais je sais pas, il y a tellement. Je pense aussi il faut citer Joan W. Scott,
c'est clair,
juste
c'est...
pour
moi, c'est
sa définition du genre.
Mm-hmm.
Ouais, c'est vrai qu'il faut rendre hommage quand même.
Si on prend des figures locales, pourquoi pas des figures comme Griseldis Real, ça c'est quelque chose qui peut vous parler également.
Bah, moi,
parce que c'est un domaine un petit peu spécial là également. Il y a la prostitution, il y a le travail du sexe, je veux dire.
Ouais, non, moi j'admire infiniment son parcours. Après, je pourrais pas. Je connais pas assez bien, j'ai pas assez lu ce qu'elle a écrit ou comme ça pour la mobiliser elle.
Bon, moi, je dois dire, c'est aussi... Enfin, c'est beaucoup aussi dans des discussions avec des amis, en fait. Enfin, tu vois, genre, est-ce que les féministes que... Tu vois, t'adores aussi tes discussions féministes, tu vois. Il y a tellement de choses qui se passent là.
Ouais.
D'accord. Et puis, qu'en est-il des... Comment observez-vous les médias de masse? La manière dont ils distillent les informations? Il y a eu récemment, ici à Genève, justement, là, lors de la Biennale du genre, tout un discours qui a été tenu par rapport au contenu de la presse mainstream, avec notamment, on a vu, une manière d'invisibiliser des problématiques féministes, d'excuser d'une certaine manière des actes sexistes. Et il y avait notamment, je crois, la rédactrice du Matin Dimanche qui était présentée, et d'autres personnes. Comment vous observez ce que font les médias de masse ici? Est-ce qu'ils sont, selon vous, sexistes, d'une certaine manière? Au moins par omission. Ou vous les trouvez relativement équilibrés?
Est-ce qu'ils ont une spécificité par rapport à différentes arènes publiques de notre société? Je ne sais pas, il y a peut-être une contingence de raccourcis qui peut être particulièrement heurtante dans ces médias. Dès que tu commences à connaître un peu une histoire, un sujet, un truc, et tu vois comment il est traité, c'est surtout cette dimension de raccourcis qui me heurte. Et puis qui finit par être dans un sens biaisé, quoi. Mais
puis aussi peut-être une histoire de qui a la parole pour quel sujet, quoi. C'est clair que voilà, maintenant, ce qui touche, enfin, les enjeux de genre et le féminisme commencent à avoir un peu le vent en poupe. Mais par contre, les gens qui en parlent, parfois, t'es là, mais mon gars. Fin...
Parce que ça, c'est quelque chose aussi que voilà. Par rapport à la fraîcheur de ces formations, telles que le master en études genre qui a fêté ses 10 ans, là, on sent que ces questions sont vraiment, elles ont pris une ampleur en ce moment, enfin, dans cette période historique, ça a pu être le cas avant, mais certaines. Mm-hmm. Mais il n'y a pas encore la reconnaissance d'une expertise nécessaire pour traiter de ces questions-là, tu vois. Donc, nous, je trouve qu'on est un peu une génération. Sacrifier, c'est peut-être un peu un gros mot, mais où même les lieux qui traitent de ces questions-là n'ont pas l'exigence du master, par exemple, mais te vont t'engager comme coordinatrice de projet ou je sais quoi pour d'autres compétences, puis tu feras une petite formation en appoint, tu vois. Ou alors, il y a des journalistes avec qui j'ai pu réagir par courriel interposé, parce qu'elles sont femmes, elles pensent qu'elles ont tout compris, tu vois. Mm-hmm. Donc il y a ça encore de, et puis je pense que c'est aussi inhérent à notre podcast de montrer en fait oui il y a quand même un peu une expertise à acquérir et à partager qui est sans fin. C'est pas pour dire que nous on y est arrivé et qu'on se mettrait dans une position surplombante, quoi. Comme l'a dit Lynn avant, on est sans cesse, et ça c'est un truc qu'il faut assumer, en train de se questionner, de s'interroger, c'est tout le temps en pétrissage.
Mais ça, quand on parle par exemple d'éveil féministe, moi ça a été très, j'avais un moment comme ça où j'étais très militante dans mon quotidien, et ces questions-là étaient toujours présentes, mais de manière tellement intense, et c'est vrai que j'arrivais plus à écouter la radio par exemple. J'arrivais plus à entendre des gens qui n'emploient pas le langage épicène. Ça me faisait mal, quoi. Et du coup, je lisais plus les journaux, souvent, ou que certains journaux qui avaient plus ou moins de sensibilité. Mais c'est vrai que, voilà, à un moment, je consommais plus de médias parce que c'était atroce. Ça me faisait vraiment, genre, physiquement mal, quoi. C'était pas possible.
Mais ça, tu vois, justement, l'usage du masculin dans l'expression orale ou écrite, c'est vrai que c'est insupportable, en fait. C'est vraiment, et puis, enfin, insupportable, puis à la fois j'ai l'impression qu'on ne s'adresse pas à moi, tu vois. Le nombre de discours d'un coup qui te passent au-dessus, ben c'est là, mais en fait tu dis tout le temps heure, et puis moi je suis une euse ou je suis une, tu vois. Et ça aussi, typiquement, tu peux le voir que c'est à partir, je crois, du 16e. Non, tu te rappelles le siècle où ça a tourné ?
16e, je crois. Ouais.
Mais où un temps, on accordait par exemple les verbes et les adjectifs avec le mot qui était le plus proche dans la phrase. Donc si tu mettais, on te sort toujours cet exemple, mais un chien et 100 femmes, tu t'accordais avec 100 femmes, mais si tu écrivais 100 femmes et un chien, tu accordais avec un chien, tu vois. Mais une fluidité grammaticale qui a été évincée, puis qui a fait que le masculin l'emporte. Mais ça aussi a une histoire. Et maintenant, par exemple, cette règle qu'on appelle de proximité, on peut de nouveau l'utiliser, on a toujours pu, mais elle est reconnue par l'Académie française.
dire que là aussi, également, beaucoup de travail reste à faire. Effectivement, concernant les médias, on peut aussi parler. Je sais que les décadrés, par exemple, essaient de faire ce travail-là, justement, d'aller voir, d'aller sensibiliser les médias, dont on sait, typiquement, hein, si on regarde les rôles de rédac-chef, ils sont quand même très peu féminins, par exemple. Et puis, quoi qu'il en soit, on sait que les médias de masse s'adressent à un très vaste public et qu'ils prennent ce prétexte-là pour dire non, mais nous, on va aller dans le sens de ce que l'on pense, que les gens attendent de nous, et que donc il y a une sorte de frilosité, justement, par exemple, dans le langage épicène qui, a priori, n'existe pas dans la presse, ou en tout cas, que certaines choses mettent du temps, j'ai l'impression, à évoluer et à changer. Quelles sont les aspirations qui vous habitent pour ces prochains numéros? Donc, le prochain podcast, c'est sous peu, dans quelques semaines.
Oui, en septembre.
Pour la rentrée. Mm-hmm. Et puis ensuite, l'idée, c'est de continuer comme ça avec cette périodicité de 3 semaines. D'autres aspirations qui vous habitent, d'autres choses vers lesquelles vous avez envie d'aller, toutes les deux?
Déjà de préciser que c'était au XVIIIe siècle, quoi,
c'est au XVIIIe siècle et non au XVIe
que l'accord de proximité n'a plus été d'usage.
Je savais pas qu'il y avait une proximité géographique.
Mais ok,
ouais, c'est ça. Ouais.
Mais c'est
ouais,
bien.
Mais tu vois, au moins.
C'est bien, c'est bien.
C'est bien, c'est précisé.
Puisqu'on n'a pas de post-pod là.
Des aspirations. Alors, les aspirations, ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes sur des rails, parce que là, ça fait quand même un an, donc vous existez depuis un an. On peut estimer que ça va être durable, vous allez continuer. Mm-hmm. Est-ce que vous vous dites déjà, ouais, un an, maintenant on a envie de faire un petit peu autrement, d'augmenter un truc peut-être? Et la question qui va avec, c'est du coup, si vous avez des aspirations comme ça d'amplifier, d'intensifier vos activités, est-ce que vous êtes à la recherche de quelque chose? De fonds, d'aide, de lieux?
Oui. Enfin, fonds, aide, lieux, peut-être pas, mais en tout cas, fonds et aide, ça, c'est, on est en train de faire des recherches là. Mm-hmm. On va voir comment ça aboutit. Moi, après, il y a aussi ce truc, une fois que tu prends le micro, t'es accro en fait. Donc c'est clair que, enfin, on continue le podcast, mais est-ce que tu vois, il y a d'autres choses?
Mais c'est vrai que là, par exemple, on a en perspective plusieurs invités qui feraient que peut-être la saison qui vient, il y aurait plus de paroles extérieures que ce qu'il y a eu précédemment. Ça peut être peut-être un changement. Ouais.
Et pourquoi pas peut-être un groupe de chroniqueuses ponctuelles qui de temps en temps émettraient un point ou je sais pas, une actualité typiquement de l'estime ou d'une organisation ou d'un groupe de gens? Pas spécialement, enfin,
pas spécialement. Je pense que ça serait alors un format complètement différent et ce serait un projet complètement à part en fait. Mais moi, ça m'intéresse aussi, voilà, ce un format de chronique comme ça, plus court, avec plus de personnes. C'est vrai que ce serait intéressant, mais voilà, je me plains pas, mais il y a vraiment aussi ce truc qu'on travaille à côté et le temps, le temps, c'est le temps quoi.
Et puis vous avez déjà.
Oh yeah.
Et puis on va quand même rappeler que vous faites, donc il y a 6 podcasts que vous préparez, qui ont cette durée quand même qui va comme ça.
C'est chaud,
ouais, c'est très chaud. Que vous montez, puis il y a les post-podcasts de nouveau, donc vous rédigez également ça. C'est-à-dire que le fait de sourcer, de citer, de réfléchir.
Et puis comme d'hab, pour parler 20 minutes, t'as bossé 4 heures pour écrémer, quoi. Parce que c'est chaque fois des sujets où on n'est pas des spécialistes thématiques. Donc chaque fois, ce qui est génial, hein. Chaque fois se reformer à ça, quoi.
Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour ces prochains temps?
De l'énergie, du peps.
Et du temps, de l'énergie, du sou.
Ouais, du soleil.
De l'énergie, après, il y a tout qui suit.
Il y a tout qui suit. Alors, pour terminer, en vous remerciant d'ores et déjà, merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci beaucoup.
Merci.
On rappelle encore le site internet, et puis évidemment, on encourage toutes les personnes à écouter les podcasts, lire les post-podcasts et s'inscrire à la newsletter. Alors, où vont-ils pour faire tout ça?
Crépidule au pluriel, donc avec un joli S à la fin, .com.
Crépidule.com.
Merci.
Merci.
Merci à toi.